S'adonner à l'écriture. Essayer, recommencer, apprendre, explorer les possibilités d'un atelier, voilà qui est devenu presque ordinaire. Workshop, masterclass et coaching littéraire fleurissent un peu partout, et c'est tant mieux. Mais devenir acteur d'un lieu de création littéraire est un peu moins courant, et participer à la construction de ces nouveaux territoires de production l'est encore moins. En adoptant cette perspective dès le départ, la romancière Joëlle Guillet a pris le parti et le pari d'une écriture exploratoire mais exigeante. C'est physique, sur le souffle, transversal et collaboratif, et pour peu que l'imagination et l'envie des mots soient là, c'est ouvert à tous. Sa mission, apprendre à chacun à se défaire des peurs, des conventions et des contraintes académiques pour permettre à l'ADN littéraire d'émerger et aux auteurs de prospecter en toute liberté ce qu'ils ont à dire. Mais avant de commencer, fermez les yeux et laissez-vous emporter.
On se détend, on va retrouver son souffle, reprendre cette respiration, la vôtre, tranquillement et naturellement. Inspirez, expirez. Allez à la rencontre de vous-même, avec plaisir, allongez-vous, voilà. Vos paupières sont extrêmement douces et retrouvez la jubilation physique d'être en existence avec vous. Détachez-vous. Allez à l'horizon, et puis maintenant, posez-vous sur votre île flottante. Voilà. Laissez les mots, comme les voiles, vous emporter vers l'ailleurs. Voilà. Ah, j'ai envie d'entendre ces souffles pour m'emporter aussi. Me déporter. Parce que justement, ce soir, je vous propose de mettre l'exil dans tous ses états. Exil, ex-île. Mais qui est île? Île de mon enfance. Exit, sortie de secours, emergency, exil politique, exil de nuit.
Joëlle Guillet, on vous connaît d'abord comme romancière et essayiste. Vous avez publié plus d'une douzaine d'ouvrages. Pour vous, les ateliers mot à mot que vous avez fondés il y a une quinzaine d'années environ sont une façon d'apprendre à mettre en écriture cette part de soi réelle, imaginaire, remisée, laissée en friche, dans l'attente un jour d'écrire pour transmettre. Mais pour écrire, il faut oser et surmonter parfois des interdits. Alors est-ce que c'est ça ou en tout cas en partie, que vous avez voulu mettre en pratique en créant cette maison de l'écriture où on se trouve?
C'était plus que ça. L'idée était... Alors peut-être que ça peut faire sourire, mais nous avons été très très nombreux à vouloir... Le mot, tout ça, c'est un petit peu galvaudé, mais l'idée était de démocratiser l'accès à des médiums, et l'écriture était extrêmement fermée, rigide. L'institution littéraire, qui gardait de façon, peut-être inconsciemment, il y a une hiérarchisation des arts, et la littérature se veut un petit peu au-dessus d'un processus de domination sur les autres arts. Tout le monde va dans un atelier depuis la Renaissance, on va apprendre la peinture, on fait de la peinture dans des ateliers, ça ne choque personne, mais un atelier d'écriture, c'était une transgression. C'est pour ça, moins maintenant, parce qu'il y a une visibilité et un accès plus important, vu une espèce de mode qui est très très bien d'ailleurs, et à l'époque, d'oser dire « je vais écrire, je veux » c'est ça qui est encore plus beau. Je veux écrire. L'idée était donc d'ouvrir l'écriture littéraire au plus grand nombre. Et de là, ce travail, comment le faire, pourquoi le faire. Il y avait une carapace devant nous, c'était l'institution littéraire qui ne reconnaissait pas ce que nous faisions. Parce qu'il y a quand même, avant moi, il y a eu des gens comme François Bon qui a beaucoup travaillé. En fait, ça venait des États-Unis, tout ça. Hein. Et par rapport à cette ambiance, à cet environnement, j'ai travaillé avec beaucoup d'éditeurs qui m'ont montré comment on travaillait l'écriture pour les lecteurs. Au début, il y a l'auteur et au bout, il y a le lecteur. Et je sais par exemple qu'il ne faut pas penser au lecteur lorsqu'on est en créativité du texte. Mais après, oui, voilà, ça c'est important.
Bonsoir. Alexandre, vous qui participez ce soir à cet atelier, et puisque vous ne cherchez pas à être publié, pour qui est-ce que vous écrivez et surtout, pourquoi faire ?
En fait, il y a aussi une trace quelque part, et cette trace pour moi, parce que finalement, ça a pour objectif que ma lecture et celle d'un groupe, et que ça reste entre nous, sans forcément avoir d'autres ambitions. Et pourquoi l'écrit ? Simplement parce que juste l'écrit me fait voyager, me fait imaginer, et m'emmène beaucoup plus loin que quelqu'un qui m'explique. Et c'est pour ça, en fait, que ça me plaît, l'écrit. Parce que je me cache derrière ce stylo, peut-être, mais en même temps, si on se débrouille bien, si on écoute bien ce qu'on nous apprend, on peut peut-être arriver à emmener les gens du point A au point B. Voilà.
Voilà, chers auteurs, nous sommes tous des exilés. Avant de prendre votre souffle pour écrire, regardez les quatre lettres de l'exil en diagonale comme ça. E, X, I, L. Quatre directions sur la boussole du monde et de l'intime, de la fiction et de la réalité. Prenez des valises qui ne fondent pas au soleil, portez loin votre imaginaire sur ces territoires. Osez tous les exils, les plus vils, les plus tragiques, les plus drôles. Mettez en place ces dispositifs qui vont vous permettre de vous enfuir pour aborder ces ailleurs. Ouvrez vos tiroirs pleins de mots et laissez-vous emporter avec jubilation. Nul ne sait où votre exil vous mènera aujourd'hui. Alors on va partir. Est-ce qu'avant de partir, vous avez envie qu'on évoque ce mot exil ? À quoi il vous fait penser, là, sans réfléchir ?
Sans terre.
Alors, comme on arrache une plante.
Comme on arrache une plante.
Rhizome.
Rhizome. On est vachement sur la terre, là. Hein. Ça sonne drôlement, hein, la terre dans l'exil. Quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer pour aller ailleurs ?
Politique.
Politique.
Méditerranée.
Frontière. Pas.
Frontière.
Quand ?
Quand ? La déception grecque. Vous avez vu ? On a déjà démarré. N'oubliez pas que les mots sont beaucoup plus malins, beaucoup plus rusés, beaucoup plus intelligents que vous. Laissez-les vous emmener quelque part. N'essayez pas de les mener au bout de votre laisse de petit maître. N'ayez pas peur, allez-y. On se retrouve tout à l'heure en Grèce. Allez, bon voyage.
Cette semaine, chacun travaille donc son exil. Il y a 15 jours, Joël avait ouvert la voie aux aires d'autoroute et depuis son canapé, Roxane avait emmené toute l'assistance jusqu'à Beyrouth.
L'autoroute est un serpent qui prend la ville au-dessus, en dessous. Elle engloutit tout, sauf les klaxons qui résonnent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On entend aussi le pas des marcheurs qui se faufilent aux côtés des voitures, des vendeurs à la sauvette, des jupes trop courtes. À Beyrouth, l'autoroute est à tout le monde, même aux mendiants. Il n'y a pas de sens interdit, pas de ticket de péage, on est libre, on peut demander à s'arrêter n'importe où, n'importe quand. La route tournoie, elle glisse, elle se jette dans la mer. Au départ de la gare routière Charles-et-Loup, je cherche un taxi pour Damas. C'était normal. Le chauffeur a l'habitude. Damas, c'est la porte à côté. Damas est une aire d'autoroute. On pourra s'y arrêter pour se dégourdir les jambes, fumer quelques clopes, manger un bout et se croire déjà en vacances. Car c'est bien à cela que servent les aires d'autoroute, un sas de décompression où on s'attarde sans vouloir y rester, un no man's land de sandwich sous cellophane, une nostalgie.
Ah, c'est joli ça.
En quelques heures, le Liban défile en kaki, en bleu, en checkpoint et brochette grignotée sur le bord de la route. Je suis invisible, assise à l'arrière de la voiture. Je suis un angle mort dans le rétroviseur. Je disparais, j'ai 10 ans et j'ai la joue collée à la fenêtre. Bientôt, le téléphone ne captera plus. Je ne pourrai pas envoyer de carte postale. La Syrie, ce n'est pas la Bretagne des vacances de Pâques, mais il y a aussi des chevaliers et des stations-service. Elles surgissent du désert, elles sont en carton comme des parcs d'attractions. On entre par des portes gigantesques sur le carrelage immaculé. Les rayons remplis de rien clignotent, ils nous ouvrent les bras. C'est un signe timide d'hospitalité. Personne ne m'a souhaité la bienvenue à la frontière. Ici, c'est le pétrole qui sourit.
Mais tous les textes qui sont produits ici sont écrits par des gens qui ne cherchent pas forcément à être publiés.
Exactement. Mes ateliers s'ouvrent vers un autre concept de créativité. Parce que c'est là qu'on comprend que la créativité littéraire peut quitter le territoire institutionnalisé de la littérature, qui est très bien, voilà. Mais il y a d'autres territoires. C'est d'imaginer qu'il pourrait... et en fait, non, c'est pas il pourrait, il y a d'autres territoires littéraires qui sont clandestins, et qu'importe. Alors, on a souvent, quand on innove, on voudrait que tout le monde soit au courant, que tout le monde fasse ça. Et puis, progressivement, je me suis dit, mais c'est formidable, cette clandestinité, et tant pis si on n'est qu'une trentaine à vivre, la créativité littéraire comme nous le faisons. Personne ne le sait, même pas le ministère de l'Intérieur. et ce côté-là, eh bien, tant mieux ou tant pis, enfin, si c'est pas plus visible.
Ça fait un peu plus d'un an que je suis avec Joël, enfin même un an tout pile, je crois. Et la liberté qu'elle nous a offerte, enfin en tout cas qu'elle m'a offerte de me dire que l'écriture n'était pas que quelque chose de seul, qu'on avait le droit d'aller vers le côté sauvage, qu'on pouvait même échanger, voler les mots qu'on pouvait entendre à droite à gauche... Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, mais ça nourrit vachement et tous les textes qu'on peut entendre, ils sont des miroirs à notre écriture et ils nous emmènent dans un endroit où finalement, bah, c'est celui où on avait envie d'aller.
On va écouter Alice, ça te va ?
Alors, les exilés épinglés, morpho bleu, provenance Brésil. Papillon étudié, classé, épinglé par les yeux acérés de l'entomologiste. Je m'égarais dans les allées de cet étrange cabinet, rempli de curiosités, fasciné par les motifs colorés des insectes exilés, exhibés au regard de témoins d'une mort allongée. Libellules et papillons, entassés fixement dans les tiroirs vitrés, étaient soigneusement conservés. Les scarabées déracinés, vert métallique, noir ou doré, alignés le long des murs entre scorpions et araignées. on s'attendrait presque à les voir bouger dans les étagères de l'atelier. Non, ils sont bien morts, me précisait l'entomologiste. C'était là tout l'art de son travail. Il n'y avait pas de quoi s'attrister sur le sort de ces êtres coincés dans leur sombre tableau. La mort d'une abeille n'a jamais marqué l'histoire. Vous entendez ce bruissement le long des murs ? L'entomologiste n'entendait rien et la visite continuait. De tous les côtés, les insectes se débattaient dans les tiroirs. Un capharnaüm insupportable. L'entomologiste, assis à son bureau, n'entendait rien, ne voyait rien, épinglé sur son fauteuil. Les coléoptères se faufilaient le long des boiseries, s'engouffrant dans chaque interstice. La pièce entière était envahie par la rébellion de ses prisonniers. Dans ce désordre du règne animal, mon corps se disloquait. Je disparaissais au milieu de la tempête des battements d'ailes. Je battais de l'aile, métamorphosée. Je suivais les mouvements de ce ballet improvisé, de l'unique fenêtre de l'atelier débordée en torrent de curiosité, qui, emporté par un souffle de vie temporaire, gardait l'espoir d'un retour à la Terre.
Bravo, c'était à mon avis, mais on peut en discuter ensemble. À un moment, je ne sais pas si c'est un narrateur ou une narratrice, devient présent. Et heureusement. Sinon, je pense que ça nous aurait, on aurait peut-être pu soit se détacher, soit s'éloigner, et plus être dans ce cabinet de curiosité. Puisque l'entomologiste, ça veut dire celui qui pratique cette politique, puisque c'est lui qui a enfermé et épinglé pour observer tous ces discours, ces analyses sur les migrants, les machins, les exilés, qu'est-ce qu'ils font faire, et tout et tout. On est en fait dans un espèce de mouvement. Tu as donné vraiment des dimensions littéraire et politique à ce texte qu'on est libre d'interpréter sans être trop dense. C'était dangereux, hein, il était dangereux ton texte. Et il y a un moment, tu as retrouvé la phrase où le narrateur dit « je bats de l'aile aussi ».
Ouais, je crois que c'est ça. « Je disparaissais au milieu de la tempête des battements d'ailes.
Voilà.
Je battais de l'aile, métamorphosée. Ah. »
Joël Guillet, vous dites que le principe de ces ateliers de création, c'est de mettre en place un travail collégial, collectif, entre les auteurs et avec les auteurs. Mais est-ce que l'écriture, traditionnellement, enfin historiquement, ce n'est pas d'abord un exercice solitaire ?
Alors déjà, lorsqu'on travaille un roman ou un essai, eh bien il y a en face de vous quelqu'un et on discute, et c'est déjà une forme de collégialité. Donc ça, je l'ai transposé dans mes ateliers, et par ailleurs, il était important qu'il n'y ait pas une espèce de légitimité supérieure, parce que je serais romancière, parce qu'au fond, nous sommes sur du sensible et sur de l'esthétique, et à quel moment c'est pas le bon mot ou la bonne phrase et cet angle pour parler de telle chose. Et là, on est tous ensemble. Et il y a les sourires, il y a les regards, et on peut pas mentir. Voilà. Donc j'accompagne mes textes avec bienveillance, mais pas avec complaisance. Si quelque chose est nul, ben je vais le dire. Voilà.
J'ai commencé par un sentiment étrange qui était de ne pas aimer écrire.
Seulement.
Et justement, ces ateliers m'ont permis de me délivrer et de voir l'écriture comme de la création, ce que je voyais comme quelque chose de scolaire. Et je voyais ça, en fait, j'ai une grande pratique de peinture et j'ai pu voir l'écriture comme de la peinture. C'est-à-dire cette richesse... cette plasticité à voir que l'écriture, ça peut être abstrait. Et en fait, j'ai eu des repères que j'avais dans ma peinture, que j'ai remis dans l'écriture. et je me suis un peu libérée au fur et à mesure. Ça m'a aidée aussi. Après, c'est devenu un peu une maladie. Et là, après un confinement, j'avais envie d'écrire. J'avais des choses à dire, puis il y avait quelque chose qui était sans doute ce moment particulier. On est tellement peut-être dans une société d'images que l'écriture prend aussi toute sa force, paradoxalement. Et justement, pendant ce confinement, je pense que beaucoup de personnes ont pris ce temps d'écrire. Après, sur les réseaux sociaux, au final, on écrit beaucoup, même si c'est des petits posts, même si... Et puis il y a des tons aussi qui évoluent différemment et on voit que le mot prend tout son sens et que ce rapport entre image et mot aussi est déterminant et qu'aujourd'hui je pense pas qu'il y ait quelque chose à ce que l'écriture, on la délaisse, au contraire, même si elle prend la forme du clavier, au final c'est la même chose quelque part.
Je marche à l'envers. Sous mes pieds, le plafond de verre me porte vers un horizon invisible.
Le choix se résumait à l'amour et la perte des siens, ou la perte de soi.
Une route sans danger, sans difficulté, pas la peine de réfléchir, régulateur de vitesse enclenché, je roulais presque sans le savoir.
Une heure, le temps d'avaler 160 km, easy. Le temps de cracher un texte ici.
Joëlle Guillet, quand on assiste à vos ateliers, on a presque l'impression d'un happening littéraire, d'une espèce d'écriture performance. Alors, est-ce qu'on se trouve ici, dans un lieu de production littéraire d'un nouveau genre ?
C'est un lieu de production littéraire. Et j'aimerais dire que ce sont des territoires littéraires différents. Parce que c'est de fait, c'est une performance. Et je vous défie, là, je vous donne une thématique et d'écrire et de lire ensuite votre texte. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça représente ? Peut-être vous avez saisi que mes thématiques peuvent déstabiliser. Elles sont pas, c'est pas des jolies petites choses qui voilà. Je cherche à faire émerger cette part un peu sauvage, un peu émotionnelle ou qui est en nous et qu'on a, même en étant des auteurs professionnels entre guillemets, on a peut-être remisé ça. Et c'est ça qui est prodigieux dans les ateliers, c'est quand tout d'un coup, effectivement, il n'y a plus de barrières, et là, il y a une originalité importante. Et c'est là qu'il y a une performance. Parce que le texte n'est pas cérébralisé.
Mais de façon plus large, au-delà de vos ateliers, comment est-ce que vous expliquez cet engouement tout à coup pour l'écriture ? Cette sorte de renouveau de la pratique de l'écrit.
Eh bien, je pense qu'on a gardé cette activité artistique très secrète. En fait, c'était un don, et on a essayé de conserver l'idée qu'on se mettait à une table de travail et qu'on écrivait, puis qu'après on appelait son éditeur, donc ça y est, j'ai terminé. Et donc il fallait avoir ce don. Donc, je pense qu'on est en train de démystifier cet aspect. Et par ailleurs, je pense que la pratique aussi de tous ces ateliers qui ont émergé permettent à des gens de se dire « Ah ben oui, on peut le faire. » Parce que plein de gens écrivent. Je veux dire, l'écriture, elle est inscrite, hein, mais pas forcément l'écriture créative, par contre.
Je pense qu'il y a une désacralisation aujourd'hui de l'écriture et c'est peut-être pour ça qu'on pense qu'on écrit moins, parce que je pense que les outils, justement, ils permettent à ce que l'écriture soit plus accessible et l'écriture prend une autre forme, pas la forme du papier, et c'est peut-être cette impression qu'on a, que l'écriture disparaît, mais elle prend une autre forme.
Selma.
Aujourd'hui, dans notre société, c'est ce qui fait que il y a une démocratisation quelque part de l'écriture. Après, c'est une écriture qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on considère moins ceci, moins cela, mais elle est là. C'est pas l'écriture d'il y a un siècle, c'est sûr. Je pense que c'est une écriture beaucoup plus parlée, effectivement, plus directe. Mais il y a toujours cette écriture plus travaillée.
Aller simple. Je flotte. J'ai perdu ma moitié en chemin. Je suis usée, lassée. Je me laisse flotter au gré des vagues. Que puis-je faire ? Je suis prisonnière des flots. Moi qui n'avais jamais vu la mer, me voilà entourée de bleu. Le bleu clair du ciel, le bleu sombre des profondeurs, un aller simple vers le noir de l'oubli. Il n'en a pas toujours été ainsi. Je n'étais pas destinée à divaguer dans l'eau. Ma vie a commencé à Kaboul, Afghanistan. Je traînais dans les vitrines, sur les marchés, les bazars ou les terrains de foot. Enfin, quand il y en avait. J'adorais taper le ballon. Enfin, quand on pouvait. Et un jour terminé, les talibans sont arrivés. Je m'ennuyais ferme à ne plus dévaler les rues poussiéreuses, à ne plus fendre l'air. J'ai pensé que tout redevenait normal quand au beau milieu d'une nuit, j'ai été attrapée, fourrée vite fait, bien fait, dans un sac avec ma jumelle. J'ai vite déchanté. Entassée dans un camion de fruits et de légumes, avec des dizaines d'autres que moi, nous avons roulé des kilomètres sur des routes cabossées, malfamées, dangereuses. Je ne me suis jamais rendu compte du danger, toujours bien rangée, toujours protégée. J'ai eu peur aux frontières avec l'Iran, la Syrie. Et ça ne m'a pas lâchée jusqu'à la mer. À chaque passage, il lorgnait sur moi, sur nous. Nous étions convoités. J'ai bien cru que nous allions y passer. Mais rien à faire, nous n'étions pas à vendre.
Et c'est ça l'intérêt d'un texte d'atelier. On n'a pas 3 mois, on n'a pas 400 pages. On a juste une toute petite heure, à peine, et il va falloir tout dire. Donc on fait une espèce de challenge presque sportif, intellectuel et esthétique pour nous emmener vers ce qu'elle voulait nous dire. Et ça, c'est un challenge, une performance. Voilà. Bravo.
L'écriture, c'est aussi une pause. C'est un temps très différent. C'est le temps de ta main, c'est le temps de ton cerveau à ta main. Enfin, c'est vraiment, il y a une gestuelle, il se passe quelque chose physiquement.
Anne.
Le numérique, le monde des réseaux sociaux, etc., la saturation d'informations, en fait, à un moment donné, c'est une pause. Tu poses tes mots, ou tu réfléchis, ou tu te laisses aller. C'est vraiment, comme en musique, c'est un temps plus doux, plus calme, plus... C'est l'introspection aussi, sans que ce soit la psy. Enfin, puis c'est de la rencontre aussi avec d'autres univers. C'est bien d'être bousculé aussi par les univers des autres. C'est vachement important. Mais ça se fait en douceur, donc c'est cool.
Alors, qu'est-ce que les gens viennent vraiment chercher ici ? Une technique, des retours, un lieu de pratique ?
On pourrait même parler d'une gestuelle. Car pour moi, il importe qu'ils puissent déplacer l'atelier, la chambre à soi, l'atelier à soi, qu'on découvre ici en groupe, qu'on puisse aussi le déplacer chez soi. Hein. Il importe pour moi de permettre aux gens qui viennent de maîtriser ce médium, de sorte que à tout moment dans leur vie, ils puissent prendre leur clavier ou leur cahier, et je leur dis, voilà, votre ordinateur va devenir la fabrique du monde. Et à tout moment, vous allez retrouver cette jubilation. Le mot est fort, mais même, je vais parfois dire, le côté orgastique que l'on éprouve lorsqu'on crée un premier jet. Après, c'est pas tout à fait la même chose. Mais cette jubilation, eh bien, qu'on puisse l'avoir à tout moment de sa vie. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu osé, mais je pense qu'à ce moment-là, on est sauvé.
De Téhéran, je me retrouvais à Paris. Enfin, mes cheveux pouvaient respirer l'air.
Je me demande ce qui m'a poussée à me retrouver dans cette position. Je ne peux pas trop réfléchir. Le sang a déjà fait gonfler mes tempes.
Nous étions en 1951. Aux côtés de mon grand-père, marin d'un jour, mon père n'arrivait pas à la hauteur de la balustrade. Il se souvient de n'avoir pu voir cette eau bleue, mais d'entendre le chant des vagues.
C'était trop infernal, je suis partie. Les gens vraiment sans argent, ceux qui n'ont plus rien du tout, commençaient à devenir fous furieux. Je ne suis pas très riche, mais encore trop pour éviter le massacre. On m'a dit que la voisine du dessus s'était fait virer de chez elle par un groupe de 5 hommes et qu'ils l'ont tabassée et violée. Je ne sais pas si c'est vrai, et à vrai dire, je n'en suis plus à ça près.
Anne, qu'est-ce qui vous incite, après une journée de travail, à pousser la porte de cet atelier ?
J'avais envie d'écrire depuis très longtemps, et j'avais très peur d'écrire, en fait. Je m'auto-censure beaucoup, donc... Et là, ben, je m'auto-censure plus du tout. Je me dis, toutes les formes sont possibles, tout est possible, en fait. Tout d'un coup, tu deviens un dieu, tu crées, c'est formidable. Tu peux tout inventer, c'est-à-dire que si tu veux 3 milliards d'éléphants dans ton histoire, tu as 3 milliards d'éléphants, et tout d'un coup, c'est l'imaginaire, et l'imaginaire, c'est ce qui te permet de flotter. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'imaginaire qui me permet de trouver un sens à tout ça, en tout cas à la vie, donc ça c'est formidable.
Écrire, ce n'est donc pas une activité obsolète.
Je pense qu'on aura toujours quelque chose à dire, on est des hommes, on est des femmes, on aura toujours quelque chose à dire. Peut-être la littérature, elle, ou telle qu'elle est connue aujourd'hui, elle disparaîtra, les maisons d'édition, mais... Je ne sais pas, alors Alexandre disait tout à l'heure, laisser une trace, je ne sais pas, moi j'ai envie juste de m'amuser. En fait, et de m'amuser ici, et de pouvoir me dire, bah, tiens, quand je suis quelque part, j'ai un cahier, j'ai un stylo, oh, j'ai une impression, une émotion, maintenant j'arrive à l'exprimer, j'arrive à sublimer. Tout d'un coup, tout ce qui peut t'arriver de bien et de pas bien, de moche et de pas moche, les émotions, t'arrives à les mettre en forme et à les mettre à distance et pouvoir les partager. Et je pense que ça, bah, l'écrit aura toujours sa place.
Alexandre ?
Je continue à écrire des lettres, des cartes postales, et autour de moi, c'est pareil, et que j'ai l'impression que, justement, il y a de plus en plus d'écrits. Après, il y a plein de façons et de manières d'écrire. Laisser une trace sur un témoignage ou un ressenti, et après, les maisons d'édition ont peut-être évolué, les supports évoluent, mais je pense qu'on est tous le public d'une lecture, d'une catégorie de lecture, d'un type d'ouvrage, et même si c'est que des magazines sur le foot, et ben c'est super. Et il y aura des lecteurs et ils ont besoin de partager, de s'échanger. Moi, avec mes amis, on s'échange les bouquins, on se les prête, on se les rend pas parfois. Et puis on le retrouve 10 ans après en disant « au fait, c'est toi ». Mais ouais.
Pour finir et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Joël Guillet, vous dites que les mots sont la fabrique du monde. Ça veut dire que l'écriture a un bel avenir devant elle ?
Si des gens comme tu peux en entendre dans ces ateliers un jour maîtrisent l'écriture, peut-être qu'on va avoir des changements et dans les formes et dans la façon de s'exprimer, mais aussi dans les idées. Lorsque je dis à mes auteurs votre ordinateur, c'est la fabrique du monde, eh bien, c'est parce que effectivement, si nous maîtrisons l'écrit, nous allons pouvoir participer à ces changements.
C'était Mot à mot, un programme réalisé par Claire Almerac et produit par Écran Sonore. Merci à Joël Guillet et à ses auteurs, présents, masqués ou à distance. Et merci à toutes celles et ceux qui osent, qui ont quelque chose à dire et à partager, et qui façonnent, en écrivant, nos imaginaires. Lecteurs, auditeurs, spectateurs, nous vous en remercions. I still don't know why I keep looking.